Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. La France sous le choc au lendemain de ce nouvel attentat dans la basilique de Nice. Un homme de 47 ans soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant a été interpellé, placé en garde à vue hier soir. Et un conseil de défense est tenu ce matin autour d'Emmanuel Macron.
Le parcours du terroriste interroge la classe politique. Il s'agit d'un jeune migrant tunisien qui est passé par Lampedusa puis Bari dans le sud de l'Italie. Il s'est donc rendu ensuite à Nice où il a commis cet attentat. Nous en parlerons avec notre invité Cédric Roussel. Il est député LREM de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes.
Et puis nous nous interrogerons au premier jour du reconfinement français sur la façon dont le virus se propage avec cette étude allemande. Étude qui révèle que les salles de concert, sous certaines conditions, ne sont pas un lieu de transmission du Covid-19. Des spectateurs volontaires ont accepté de se soumettre à une batterie de tests l'été dernier.
Et puis aux États-Unis, alors que les élections se rapprochent, l'inquiétude grandit au sujet d'éventuels risques de violence et de débordement. Décryptage avec le directeur de Crisis Group, Robert Mallet, qui fut le conseiller Proche-Orient de Bill Clinton, puis de Barack Obama.
La France sous le choc au lendemain de ce nouvel attentat dans la basilique de Nice. Une attaque au couteau qui a fait 3 morts. L'assaillant âgé de 21 ans est hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Après son attaque, il a crié vers les forces de l'ordre « Allah Akbar ». Les enquêteurs ont retrouvé près de lui un Coran, 2 téléphones et l'arme du crime. Au-delà de l'enquête et de la légitime émotion provoquée par ce nouvel attentat, Christophe Rouget, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, parle d'un effet mimétique de réplique que l'on retrouve à chaque fois après un attentat important comme a pu l'être celui contre Samuel Paty. On l'écoute.
Malheureusement, lorsque nous avons des attentats qui génèrent une forte émotion dans l'opinion et qui saturent l'information, effectivement, avec le développement des chaînes info, mais aussi la forte influence des réseaux sociaux, on crée un phénomène d'anxiété dans la société, mais on crée aussi une espèce de phénomène de publicité de terrorisme. Et donc, nous avons tout un tas de personnes qui se retrouvent influencé par l'exemple un peu mortifère de ces attentats et qui sont soit des personnes radicalisées, soit désœuvrées, soit en détresse psychologique et qui du coup décident de passer à l'acte pour combler un peu le vide de leur vie. Et donc on a une espèce de réplique comme c'est sur le, on peut le constater sur les tremblements de terre. On a un gros tremblement de terre, ensuite on a des répliques. C'est un peu la même chose, on le constate à chaque fois sur les phénomènes de terrorisme où on a, suite à un gros attentat, de nombreuses personnes qui veulent passer à l'acte en mimant un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents.
Et la France a été ciblée par 2 attaques djihadistes sur son sol en moins de 2 semaines. Et c'est dans ce contexte que s'est tenu ce Conseil de défense ce matin autour du président de la République Emmanuel Macron, Margot Delpierre.
Oui, l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty et maintenant cette église de Nice prise pour cible en plein état d'urgence sanitaire. Les crises s'accumulent et c'est inédit. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que le plan Vigipirate était porté à son plus haut niveau, l'urgence attentat. Le nombre de soldats patrouillant dans les rues passera de 3000 à 7000. Une attention toute particulière est portée aux écoles et aux lieux de culte en cette période de la Toussaint, car même si nous sommes à nouveau confinés, il existe une tolérance ce week-end, le temps des célébrations. Pour l'instant, silence à l'Élysée. Il faudra attendre pour savoir ce qui a été décidé en Conseil de défense. La volonté d'agir ne suffit pas, prévient Christian Estrosi. Le maire de Nice estime qu'il faut modifier la constitution de notre pays pour mener la guerre. Il réclame un filtrage des flux migratoires et de nouvelles compétences pour les maires. Toutes les réflexions législatives efficaces doivent être sur la table, affirme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, mais toujours dans le respect de l'état de droit. Par ailleurs, 14 étrangers en situation irrégulière et radicalisés ont été expulsés de France depuis la fin septembre, a précisé Gérald Darmanin. L'enquête, elle, suit son cours. Nous avons appris ce matin qu'un homme de 47 ans a été placé hier soir en garde à vue, soupçonné d'avoir communiqué avec l'assaillant la veille des faits. Que se sont-ils dit? On ne le sait pas encore. Ces réponses pourraient être précieuses, alors que l'assaillant, neutralisé par les policiers, est toujours entre la vie et la mort.
L'assaillant est un Tunisien de 21 ans, inconnu des services de renseignement et de police. Les autorités tunisiennes condamnent fermement cet acte terroriste et appellent à des efforts internationaux conjoints pour lutter contre le terrorisme. Sur place, la nouvelle a été accueillie avec effroi. Maureen Mercier, notre correspondante en Tunisie.
À chaque attentat sur le sol européen, les Tunisiens prient pour qu'il ne s'agisse pas d'un des leurs. À Nice, l'auteur de l'attentat sur la promenade des Anglais en 2016 était d'origine tunisienne. Bouchra Belhaj, avocate, grande figure ici en Tunisie de la société civile, est une fois encore sous le choc.
On s'habitue jamais, jamais. C'est toujours un choc, c'est toujours insupportable. On a ce sentiment de culpabilité à nous dire pourquoi un Tunisien, pourquoi nous, nous produisons ce type de monstre. On se demande où est-ce qu'on s'est trompé.
Depuis la révolution de 2011, des milliers de Tunisiens sont partis rejoindre Daesh en Irak, en Syrie ou en Libye. Ils seraient, selon les sources, entre 3 et 6 000. Et puis, il y a ceux qui commettent des attentats en Tunisie ou à l'étranger, comme en France. Comment expliquer que le pays soit devenu l'un des principaux pourvoyeurs de djihadistes?
En Tunisie, on ne voit pas d'action réelle pour la prévention, pour éduquer, préparer les nouvelles générations aux valeurs universelles, droits de l'homme, aux valeurs de la paix.
Pour Bouchra Belhaj, malgré les événements, la France ne doit surtout pas se fermer aux Tunisiens.
Autant je comprends l'émotion, mais au contraire, il faut s'ouvrir aux Tunisiens et surtout, il faut une meilleure collaboration. Pas seulement au niveau des services de sécurité.
Pour lutter contre l'obscurantisme, l'éducation, la culture et l'échange sont pour elle, plus encore que le tout sécuritaire, les seuls remèdes.
Et on en sait désormais un peu plus sur ce parcours de l'assaillant de Nice, un parcours qui nous mène en Italie, où nous rejoignons notre correspondant permanent, Bruce de Galgin. Bonjour.
Bonjour.
Ce Tunisien de 21 ans est arrivé à Lampedusa, cette petite île à 130 km de la Tunisie. Il y a à peine plus d'un mois, il avait l'intention de rejoindre la France.
Oui, il parlait souvent au téléphone et avait bien l'intention de rejoindre la France, selon les enquêteurs de l'antiterrorisme italien cités par le Corriere della Sera, et des enquêteurs qui ont interrogé dès hier les Tunisiens encore dans les centres d'accueil de migrants en Italie et qui ont côtoyé le tueur de Nice. Arrivé à Lampedusa le 20 septembre, il ne reste que quelques jours dans le centre d'urgence de l'île et puis est mis en quarantaine sur un navire avec des centaines d'autres migrants et débarque finalement à Bari dans les Pouilles le 9 octobre. Ils sont alors 400. Parmi eux, une centaine, considérés comme dangereux ou déjà signalés aux autorités, sont envoyés dans des centres de rétention. Un peu moins de 200 dans des centres d'accueil. Et une autre centaine, la plupart tunisiens, sont laissés libres avec un ordre d'expulsion du territoire. C'est le cas du tueur de Nice dont on perd alors la trace.
Et en Italie, Bruce, la polémique politique est assurée par la Ligue d'extrême droite qui réclame la démission de le ministre de l'Intérieur.
Oui, Matteo Salvini estime que le président du Conseil et la ministre de l'Intérieur ont la responsabilité morale de ce qui s'est passé à Nice. Et il demande en effet la démission de la ministre qui réplique. C'est une attaque contre l'Europe et nous n'avons aucune responsabilité. Ce n'est pas le moment de la polémique, dit-elle, en indiquant que le Tunisien n'avait été signalé ni par la Tunisie ni par les renseignements italiens. Et la ministre de l'Intérieur en profite pour tacler la Ligue qui était au pouvoir lorsque d'autres terroristes sont passés par l'Italie avant de perpétrer des attentats.
Merci à vous, Bruce de Galzin. Invité de ce journal, Cédric Roussel. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes député LREM de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Nice, une nouvelle fois touchée hier par le terrorisme. L'assaillant, on vient de l'entendre, est un jeune migrant tunisien qui est passé par Lampedusa puis Bari dans le sud de l'Italie. Il s'est donc rendu ensuite à Nice où il a commis cet attentat. C'est un parcours qui interroge.
Oui, tout à fait. Les enquêtes sont d'ailleurs en cours, donc c'est un peu difficile de se prononcer puisque le procureur poursuit son travail. Donc ça permettra effectivement de savoir très clairement où est-ce que les choses ont failli. Bon, on l'a entendu dans votre reportage, hein. Il n'y a pas eu de signalement non plus en Italie. Donc ça montre bien d'ailleurs qu'il s'agit d'une coopération européenne contre une lutte contre un islamisme politique et radical et une guerre contre le terrorisme qui est bien internationale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu justement un problème dans cette coopération européenne ?
C'est l'enquête qui le dira. C'est l'enquête qui le dira, sachant que je crois qu'il faut avoir conscience que cette guerre, elle se joue à plusieurs niveaux, au niveau sécuritaire, mais également au niveau culturel et international, par une coopération de tous les instants. Et elle s'est révélée ces dernières heures avec un soutien, une solidarité vis-à-vis de la France de la part de nombreux pays européens, mais ça passera à ces trois niveaux.
Elle se joue surtout au niveau européen. Et c'est là où le problème oui. S'est posé.
Exactement. Donc il y a une faille. Vous savez, le risque zéro, ce serait illusoire et mentir aux Français de dire qu'il existe. Ce serait aussi mentir aux Français de dire qu'il faut fermer les frontières et que le problème donc de la guerre contre le terrorisme s'arrêterait tout simplement parce que si vous regardez malheureusement les 30 derniers attentats, sur ces 30 auteurs, 22 étaient Français et vivaient en France.
Mais en l'occurrence, les frontières ouvertes à l'intérieur de l'Union européenne, c'est ce qui a permis à ce jeune homme de venir commettre cet attentat à Nice.
C'est ce qui lui a permis de circuler, comme il en est la règle, et c'est le principe même donc de la construction européenne, cette liberté de circulation des marchandises et également bien sûr des personnes, ce qui n'empêche pas le contrôle et ce qui n'empêche pas une coopération donc meilleure, puisque ici, force est de constater, d'après les premiers éléments d'informations que nous avons, qu'il y a une faille. Et puis, surtout, d'après ce que nous avons vécu hier, ici, à Nice.
Et est-ce que cette faille ne donne pas de l'eau au moulin de l'extrême droite? On l'a entendu en Italie, mais également en France, avec Marine Le Pen?
Non, parce que je répète, c'est un combat contre une idéologie. C'est pas un combat contre une religion déjà, ça c'est important de le rappeler. C'est un combat contre une idéologie, c'est un combat culturel. Quand je dis culturel, c'est que aujourd'hui, tous ces assaillants, parce qu'ils viennent de l'intérieur, hein, rappelons-le, surtout, et également de l'extérieur, tous ces assaillants veulent déconstruire.
Là, ils venaient de l'extérieur, en l'occurrence.
Là, ils venaient de l'extérieur. Mais je veux dire, le ton. Enfin, je crois qu'il faut juste ne pas avoir donc une vision uniquement unidimensionnelle du problème. Le problème, il est connu, il a été même exprimé par le président de la République lors de son discours au Mureau. Je crois que c'était déjà donc une solution et une réflexion globale et transversale qui se veut être ce genre de méthode, je pense, qui doit être appliquée, à savoir donc qu'il faut s'attaquer au mal à la racine. La racine, elle est avant tout donc une idéologie, donc il faut combattre l'idéologie par une autre idéologie, en l'occurrence nos valeurs. Donc ça passe par l'école de la République notamment, ça passe par les administrations publiques, ça passe par l'esprit citoyen qu'il faut réapprendre avec un apprentissage. D'être citoyen français, c'est bien apprentissage pour pouvoir effectivement donc qui nécessite des devoirs, mais qui donne aussi des droits. Et ça passe, vous le savez aussi, par une acculturation et une défense de nos valeurs sur le net, c'est-à-dire contre ce virus viral du mal qui circule librement aussi, donc contre la haine. Voilà, donc n'ayons pas qu'une seule dimension étriquée. Si on fermait les frontières, si effectivement donc on arrêtait aux personnes d'y circuler, ce n'est pas comme ça, puisqu'encore une fois, le mal aussi se nourrit de l'intérieur.
Vous dites que c'est un combat contre une idéologie et pas contre une religion, mais ça n'est pas tellement compris, ça, dans les pays musulmans.
Je crois pas. Je crois pas, puisque je crois qu'effectivement ça en dérange certains. Qui sont plus radicaux et qui veulent faire en sorte que l'islam ne soit pas une religion mais une idéologie, et leur idéologie politique voilà qui est une idéologie par la terreur. Je crois que vu déjà à Nice les messages de soutien de toute la communauté religieuse musulmane, il y a une vraie solidarité. Vous savez qu'on a une histoire tragique à Nice en 2016 déjà. Je vous rappelle quand même que un tiers des victimes des attentats de Nice donc sont de confession musulmane. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas
à l'étranger
de ma part en tout cas.
Je vous parlais à l'étranger. Il y a plein de manifestations hostiles à la France dans un certain nombre de pays musulmans.
C'est possible, comme il y a plein de messages de solidarité. Et si vous voulez, dans ces moments-là, j'ai surtout envie qu'on construise sur des valeurs positives et sur des sentiments positifs. Donc, qu'on ne soit pas... On a un modèle unique en France. C'est un modèle, effectivement, qui ne plaît pas à tout le monde. Mais la laïcité fait partie de ce modèle. C'est une liberté d'expression avant tout. Ce n'est pas le cas peut-être d'autres pays, mais voilà, c'est un modèle en tout cas que nous Français, que nous Républicains, encore plus députés de la nation, je défends.
Alors, la laïcité, elle existe en France, mais alors chacun n'a pas forcément la même interprétation de la laïcité. Tout est parti en fait de la republication des caricatures de Mahomet, des déclarations d'Emmanuel Macron défendant le droit de caricaturer, et certains en France commencent à douter de cette ligne défendant le droit au blasphème, avec l'idée qu'il faut apaiser les esprits, ne pas provoquer. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent ça ?
Personnellement, je n'ai pas, je dirais, il y a différentes formes d'humour. Celle-ci n'est pas ma préférée, mais par contre, je la défendrai tout le temps et je défendrai les auteurs et ceux qui la diffusent sur ce principe même de la liberté d'expression. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous fait être ensemble. C'est un principe qui est fondateur. Donc, en cela, il n'y a même pas de doute à avoir. Encore moins maintenant. Donc, ma position est celle-ci depuis les affaires des caricatures et elle reste toujours la même aujourd'hui.
C'est-à-dire le droit de caricaturer, le droit de choquer ?
Écoutez, une forme d'expression. C'est une forme d'expression qui n'est pas une obligation. D'accord ? C'est une liberté de croire. On laisse donc les religions, quelles que soient, cette religion-là s'exprimer, se vivre, c'est quelque chose aussi de très intérieur, mais qui impose donc un respect de toutes les religions et un respect de l'autre d'une manière générale. Donc je suis dans cette règle-là où je respecte effectivement le dessein de l'autre, même si je n'y adhère pas fondamentalement, c'est-à-dire que même si je ne trouve pas ça forcément très drôle, en tout cas je respecte donc sa vision et sa diversité.
Merci beaucoup à vous, Cédric Roussel, d'avoir accepté cette interview dans le journal de France Culture. Merci également à France Bleu Azur qui assurait les moyens techniques. Premier jour de reconfinement en France, premier jour de fermeture d'un certain nombre de commerces et d'activités. On le sait, l'accélération de l'épidémie et les mesures de confinement vont peser sur l'économie. Même l'exercice des prévisions reste difficile dans le contexte. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire table sur une contraction du produit intérieur brut de la France, plus importante que prévue. Catherine Pétillon.
Le gouvernement a revu ses prévisions à la baisse et table désormais sur une récession de 11% cette année. C'est un point de plus que ce qu'il envisageait jusque-là. Cette dégradation est bien sûr anticipée en raison des nouvelles mesures de restriction et de confinement. La fermeture des commerces non essentiels, des lieux de culture, des restaurants notamment, devrait provoquer une contraction de 15% de l'activité. Cela reste moins qu'au printemps, où les restrictions étaient plus fortes, l'activité avait alors chuté de plus de 30%. Pour le patronat, les fermetures actuelles restent une erreur. Il craint un écroulement de l'économie. L'exécutif, lui, met en avant les mesures de soutien mises en place, qu'il s'agisse de l'activité partielle ou des aides aux entreprises fragilisées par les restrictions. Mais au-delà du confinement proprement dit, la reprise de l'épidémie a aussi un effet sur les investissements des entreprises et sur la consommation des ménages. Malgré une hausse à l'été, elle est restée inférieure de 2% à son niveau d'avant-crise et a même recommencé à reculer au printemps. C'est avant tout l'incertitude qui domine sur l'évolution de la situation.
Et puis j'ajoute que le produit intérieur brut de la zone euro a bondi de 12,7% au troisième trimestre, un chiffre historique qui marque un rattrapage après une chute jamais vue au trimestre précédent. Cependant, le PIB du troisième trimestre reste inférieur de 4,3% au chiffre de l'an dernier sur la même période, ce qui montre que le redressement de l'activité sous l'effet des moindres restrictions durant l'été a été seulement partiel. Et on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas évoquer la culture lors de son intervention télévisée mercredi soir. Monsieur le Président, laissez les librairies ouvertes. C'est l'appel du journaliste François Bunel, animateur entre autres de la Grande Librairie sur France 5. Il lance une pétition dans la journée pour que les librairies puissent rouvrir au plus vite pendant le confinement. C'est ce qu'il a annoncé ce matin chez nos confrères de France Info.
Pour plein de raisons qui sont toutes liées les unes aux autres, c'est-à-dire au combat que tout le monde essaye de mener, vous les premiers, je crois le gouvernement aussi, contre l'ignorance, contre l'obscurantisme, contre le fanatisme. Les librairies, vous savez, c'est le seul endroit peut-être où vous pouvez faire disparaître avec les bibliothèques, toute théorie du complot. Parce que vous avez des livres qui racontent des histoires, qui expliquent que les choses ne sont pas noires ou blancs et que contre un livre unique, quel qu'il soit, il y a les livres. C'est aussi l'endroit où vous pouvez vous armer avec des armes efficaces contre le réel. C'est l'endroit où vous pouvez trouver de l'espoir, trouver de la consolation, trouver également ce qui vous dérange, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait progresser et ce qui vous fait penser par vous-même. N'éteignez pas les lumières, s'il vous plaît. Les librairies ont besoin d'être ouvertes et c'est pas simplement l'amoureux des librairies qui vous le dit, pas simplement pour préserver un commerce, mais parce qu'il y a des millions de personnes dans ce pays et on l'a vu juste après le premier confinement qui ont envie de lire, qui ont besoin de lire. Vous comprenez? Nous avons tous entendu le président de la République nous dire nous sommes en guerre. Pourquoi se priver du meilleur bataillon? C'est-à-dire celui qui va permettre à la connaissance, d'affronter l'obscurantisme. Tout est lié, y compris ce qui s'est passé de tragique hier à Nice.
Et on commence à cerner un peu plus ce virus, la façon dont il se propage, et on n'est pas au bout de nos surprises. Les salles de concert, par exemple, sous certaines conditions, ne représenteraient pas un lieu de transmission du Covid-19. C'est le résultat d'une étude grandeur nature de chercheurs allemands menée cet été. Des spectateurs volontaires avaient accepté de se soumettre à une batterie de tests. À Berlin, les précisions de Ludovic Piétenu.
Le 22 août, dans la Leipzig Arena, 1400 personnes, des cobayes en quelque sorte, ont assisté à un véritable concert équipé de masques FFP2 et sur leur portable l'application anti-Covid qui leur permet de tracer leurs contacts. Et dans la salle, beaucoup d'instruments de mesure. Trois scénarios ont été organisés ce jour-là, en changeant par exemple la disposition de la salle, les sièges et la distance entre les spectateurs. Aucune infection n'a été enregistrée à la suite de cette expérience. Mais virtuellement, les scientifiques ont attribué à 24 spectateurs un statut infectieux. Ils ont alors observé le chemin du virus et les risques possibles de transmission. Voici leur préconisation. Il faut toujours des sièges pour maintenir les spectateurs figés le plus possible. Et lorsque le virus circule faiblement, 50 nouvelles infections sur une semaine pour 100 000 habitants, la jauge doit tout de même être limitée à 50% de la capacité de la salle. Si le virus circule davantage, on ne peut utiliser que 25% de l'espace. Il faut des technologies de ventilation moderne, l'air doit être renouvelé, avec aussi davantage de portes d'accès pour limiter les contacts. C'est loin d'être facile à mettre en œuvre dans tous les stades ou les salles de concert. Mais à l'heure où tous les événements culturels et sportifs seront de nouveau interdits ou sans spectateurs à partir de lundi en Allemagne, cette étude vient tout de même légèrement contredire une telle décision.
Aux États-Unis, alors que les élections se rapprochent, l'inquiétude grandit au sujet d'éventuels risques de violence et de débordement, à tel point que le géant américain de la distribution, Walmart, vient de décider de retirer provisoirement les armes et munitions de ses rayons, redoutant des mouvements d'agitation sociale, comme après la mort de George Floyd en mai dernier. À Washington, les commerçants du centre-ville ont déjà commencé à se barricader en posant des panneaux de bois devant leurs vitrines. Et surtout, l'organisation non gouvernementale Crisis Group publie pour la première fois un rapport sur les risques de violence que pourrait entraîner le scrutin de mardi. Créée il y a 25 ans, l'ONG est spécialisée dans la gestion des troubles post-électoraux en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Mais c'est la première fois qu'elle rédige un avertissement de ce type pour une élection américaine. Robert Mallet fut le conseiller Proche-Orient de Bill Clinton puis de Barack Obama et il dirige aujourd'hui Crisis Group.
Ce que j'ai fait il y a à peu près 2 mois, c'est que j'ai demandé à mon équipe qui travaille donc sur les dossiers, les risques de violence. C'est le mandat de notre organe, de notre mission, c'est d'essayer d'éviter ou d'empêcher ou de réduire les violences. Et je leur ai dit, regardez tous les critères que vous-même en Afrique, en Asie, en Amérique latine, que vous regarderiez comme signal d'alarme de possibles troubles de violence électorale. Et lorsqu'ils ont dressé cette liste, ce qui était frappant, c'est de voir que les États-Unis cochaient quasiment toutes les cases. Vous avez une polarisation extrême des opinions, vous avez une quantité d'armes qui circulent, vous avez la méfiance des deux côtés vis-à-vis des institutions, et vous avez la conviction partagée un peu de part et d'autre qu'ils ne peuvent perdre l'élection que si l'autre camp triche. Et ça, évidemment, c'est également un point assez délicat. Et lorsque vous ajoutez à tout cela, comme j'ai dit, la présence d'armes, la présence de groupes armés, surtout du côté des groupes néo-nazis, des groupes de suprématie blanche, lorsque vous additionnez tout ça, et en plus, vous avez un président, malheureusement, le président Trump, qui ne fait que nourrir tous ces sentiments de méfiance, qui jette l'huile sur le feu, et qui fait craindre donc qu'il n'acceptera pas un résultat qui ne lui est pas favorable et qui a refusé de répondre jusqu'à maintenant à la question de savoir est-ce qu'il accepterait un transfert paisible des pouvoirs au cas où il perdrait, parce que sa réponse est toujours de dire « je ne peux perdre qu'en cas de manipulation électorale, de tricherie, de fraude électorale ». Donc vous additionnez tout ça, comme je l'ai dit, on ne prédit pas une guerre civile, mais des incidents violents, c'est possible. Certainement des troubles et une crise institutionnelle. Tout cela, c'est dans le domaine du possible. Et pour un pays comme les États-Unis, qui joue le rôle qu'il joue sur la scène mondiale, c'est tout de même assez alarmant de le dire.
Robert Mallet au micro de Grégory Phillips. Cet après-midi, la France sera divisée en deux, des nuages et de la pluie au nord. Là, vous pourrez profiter du reconfinement sans regret. En revanche, il y aura du soleil au sud. Température conforme au normal de saison, 14 à Metz, 16 à Paris, 20 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Annabelle Grelier.